Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
La messe, source et sommet de la vie chrétienne pour les catholiques, un rite étrange ou d'un autre âge pour beaucoup de Français. Que se passe-t-il pendant la messe? Qui célèbre-t-on? Quelle est sa logique? Que signifient ces nombreux rites? Tout y a-t-il du sens? Afin de comprendre un peu plus cette liturgie, je vous propose cette année une grande série annuelle sur la messe, une série avec un invité de marque sur le sujet, un moine, ancien abbé, aujourd'hui évêque, et qui fut un temps président de la Commission internationale de liturgie, ou en tout cas de la traduction francophone. La messe et ses mystères, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Et nous sommes avec donc Monseigneur Le Gall. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous. Donc je rappelle pour ceux qui par hasard vous connaîtraient pas, puisqu'on est diffusé dans une bonne partie de la région Occitanie, donc tout le monde ne vous a pas comme évêque, vous êtes donc archevêque de Toulouse. Vous êtes ancien membre de la congrégation pour le culte divin à Rome. Vous nous expliquerez peut-être en quelques mots ce que c'est. Et vous êtes aussi l'ancien président de la Commission internationale pour la traduction liturgique francophone et l'auteur donc d'un livre réédité aux éditions CLD intitulé « La messe au fil de ses rites ». Je voulais commencer quand même l'émission, avant qu'on rentre dans cette grande série annuelle, sur les manifestations qui ont eu lieu hier à Paris. On sait qu'un certain nombre de chrétiens y sont sensibles, certains sont peut-être allés manifester, d'autres au contraire considèrent que ce n'est pas une bonne manière de se mobiliser. Vous avez publié récemment un texte intitulé « Dire non au projet de loi de bioéthique » et il se finit de la manière suivante. Aujourd'hui, j'invite les catholiques à prendre leurs responsabilités pour exprimer leurs sentiments, leurs craintes, leurs refus de toutes les façons possibles et respectueuses, rencontres personnelles, formations, manifestations. J'invite même, vous ajoutez, les pasteurs de nos paroisses à informer les fidèles pour les aider à éclairer leur conscience et à décider les actions qui peuvent être menées. Quel commentaire auriez-vous après cette manifestation d'hier ?
C'était impressionnant d'après les images qu'on a pu apercevoir sur nos mobiles ou sur nos écrans de télévision de voir en effet cette foule, il faisait beau à Paris, semble-t-il, au moment où commençait la manifestation. Donc ces drapeaux, ces belles couleurs, et c'était une certaine joie mêlée à une grande gravité bien sûr aussi, mais c'était impressionnant de voir cette foule en effet à différents endroits. Des échos que j'ai pu avoir par des messages sur mon mobile encore de personnes que je connais sur la région toulousaine qui sont très, très impliqués dans cette manifestation. Donc, et c'est d'autant plus étrange qu'on voit au lendemain de cette manifestation et des minimisations, si j'ose dire, un petit peu de cette manifestation en montrant que les chiffres qui sont ridicules par rapport à ce qu'on a vu vraiment sur les places et les rues de Paris.
Marchons-enfants annonce 600 000 participants, alors que les chiffres officiels tourneraient autour de 74 000 ou 75 000.
Et même certains, 20 000, etc. Donc c'est renversant de voir, c'est même écœurant. Enfin, c'est pas possible d'avoir une telle méconnaissance de la réalité et de montrer qu'on ne veut pas tenir compte de ce mouvement de fond. Et je dis dans mon communiqué, entre autres, parce qu'on en avait parlé à la réunion des métropolitains, nous sommes 15 métropolitains en France, et au début septembre, on avait évoquer cette question et nous étions d'accord les deux tous pour dire qu'il fallait que les chrétiens prennent leurs responsabilités et qu'il était bon de manifester.
Quel est l'enjeu peut-être de votre adresse aux fidèles de Haute-Garonne et on imagine plus largement aux hommes de bonne volonté? Qu'est-ce que vous souhaitiez leur dire par ce texte au titre, on va dire, explicite, hein, dire non au projet de loi de bioéthique? Quel est l'appel que vous leur lancez?
Je crois que l'essentiel, c'est l'attention à l'enfant reçu et non pas commandé, le respect de l'enfant à venir, à accueillir, et non pas un enfant que l'on exige et que l'on veut pour soi, comme on le veut, avec les caractéristiques qu'on veut. Donc c'est un enfant comme don de Dieu, et comme don à accueillir, à respecter, à favoriser de toutes les manières possibles, et donc un enfant qui puisse avoir un père, une mère, qui puisse partir dans la vie avec tous les éléments dont il a besoin pour devenir, grandir, enfant de Dieu. et enfant au milieu des familles. Et vraiment, l'enfant est le premier dont il convient de tenir compte. Et pour moi, c'est le fond de mon message est celui-là.
Alors, de cette actualité à la messe, on peut se dire qu'il y a un pas difficile à franchir. Je vous dirai, je vous demanderai pour faire écho au propos de votre livre. Aujourd'hui, on va parcourir donc la première partie de cet ouvrage, la messe au fil de ses rites, intitulé « Les rites initiaux ». Tout de suite, vous nous précisez dans votre livre que, en fait, quand on assiste à cette liturgie qui est la messe, c'est comme si... il fallait venir, j'allais dire, les mains dans les poches, c'est pas le propos, mais qu'il y a là quelque chose en fait qui est donné.
Qui est depuis toujours et pour toujours pris.
Est-ce que vous pouvez commencer par dire un mot là-dessus? On est invité en fait à une liturgie qui existe en dehors de nous quelque part.
Il y a de très belles célébrations, comme celle insolite et pas fréquente maintenant, mais des célébrations de la bénédiction des cloches. On a vu la fonte des cloches ici à Toulouse, à la Dorade, et j'ai béni ces cloches il y a quelques mois maintenant, au début de l'année. Et les cloches, c'est le symbole des anges qui nous appellent à nous réunir, à nous rassembler dans l'Église. Donc l'Église est un assemblement, le mot même « église » en grec, « ecclesia » en grec, signifie justement que quelqu'un qui vient parce qu'il est appelé. Ek kaleo, kakaleo c'est appelé, et ek qui est en provenance d'eux. Donc on est vraiment convoqué, on est invité, et les cloches nous rappellent cela, les cloches joyeusement, et qu'on est invité. Et donc c'est une invitation qui vient de Dieu, qui vient de l'Église avec un grand E, pas de l'Église avec un petit, aussi de l'Église avec un petit E, parce que les cloches de l'Église sonnent, et donc on vient. On se rassemble, mais c'est une invitation. Comme à la communion, on est heureux les invités au repas du Seigneur, donc on est heureux les invités à cette assemblée eucharistique qui va commencer.
Alors à propos donc de cette liturgie, vous commencez donc par parler de l'entrée en montrant un petit peu les protagonistes de cette liturgie que sont donc l'assemblée et le prêtre. À propos de cette invitation, vous dites que les fidèles, en fait, leur décision d'aller à la messe est en fait une réponse donc à l'appel divin.
Ce que je viens de dire.
À propos du prêtre, vous rappelez entre autres que le prêtre agit in persona Christi, il tient lieu du Christ. C'est parfois difficile à comprendre. Vous dites qu'il est face à l'Assemblée, le Christ en personne. Comment est-ce qu'on vous pourriez nous aider à rentrer dans ce qu'on voit d'abord comme un symbole, peut-être simplement?
Et vous voyez que quand nous rentrons dans la célébration, les fidèles sont là dans l'assemblée, et le prêtre rentre, et donc avec les sièges qu'il précède, un diacre s'il en est un, etc. Donc on avance, et le prêtre arrive, et qui est là que le président de l'assemblée, le pasteur de la communauté. Et comme tout chrétien, ce qu'il définit comme chrétien, c'est d'être fidèle du Christ, Christi fidelis. C'est vraiment le fond de notre dignité profonde des uns et des autres dans l'Église. Nous sommes des fidèles du Christ. Mais dans cet ensemble de chrétiens, dans ce corps du Christ, la tête du corps mystique, c'est le Christ. Et le prêtre, en tant que prêtre, quand il exerce ses fonctions de prêtre, il est la présence même du Christ tête.
C'est-à-dire, c'est pas seulement un symbole.
Son ordination sacerdotale le rend capable de prendre la place du Christ tête. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, et ça se voit dans, il est à la tête de l'assemblée, il est face à l'assemblée, donc il s'en distingue tout en étant lui-même forcément un fidèle du Christ lui aussi. Mais dans l'acte de son sacerdoce, il agit, et la formule en effet traditionnelle depuis des siècles, il agit in persona Christi, c'est-à-dire dans la personne même du Christ.
Alors vous ajoutez, il est habilité donc à prier le Christ et par lui le Père au nom de l'Église tout entière. En ce cas, il agit aussi in persona ecclesiae, dans la personne même de la communauté ecclésiale. Le rôle du prêtre est irremplaçable. Sans lui, l'Église ne serait pas elle-même et n'aurait pas l'assurance d'être unie à son époux. Si on continue à la liturgie, quand on assiste à une liturgie dominicale, à la messe, enfin pas que dominicale, il y a donc le baiser de l'autel et l'encensement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que symbolise l'autel?
L'autel, c'est le symbole le plus important de toutes les églises, c'est le centre, c'est vraiment le centre le plus important, le symbole le plus fort dans une église. Ce n'est pas la croix, ce n'est pas même le Saint-Sacrement quand il est là, dans l'Eucharistie, quand on commence l'Eucharistie, le symbole c'est l'autel qui représente le Christ lui-même, comme dit une des préfaces du temps pascal en particulier, il est à la fois la victime, l'autel et le prêtre. Et l'autel, c'est le mot latin altare, signifie l'endroit le plus élevé. Donc c'était le lieu, dans les religions, dans toutes les religions, le lieu où on rejoignait Dieu. Dieu descend vers nous et nous on monte vers lui, et c'est le lieu le plus élevé où on rencontre Dieu, le lieu de la rencontre avec Dieu. Et en effet, dans l'architecture des églises, on monte à l'autel. Je monterai à l'autel de Dieu, comme on dit dans un des psaumes, comme vous savez. Donc on monte vers Dieu, et le prêtre assume comment tout le peuple de Dieu qui monte vers Dieu et qui va rejoindre Dieu. Et le baiser de l'autel, c'est le mot adoration. Vous savez, le mot adoration, quand on adore, c'est qu'on met ad os oris en latin, c'est la bouche. Donc on met la main à la bouche pour donner un baiser. C'est un baiser qu'on envoie. Comme un baiser. Mais là, on touche l'autel en signe de au début de la messe et à la fin de la messe, le prêtre baisse l'autel en signe de communion avec le Christ et de à la fois de respect, de respect, de tendresse par rapport au mystère du Christ et tout le mystère du Christ, sa passion, sa croix, sa résurrection.
Vous rappelez donc que l'encens que l'on fait fumer aussi sur l'autel symbolise le sacrifice du Christ qui s'est offert à son Père en odeur de suavité, vous dites. Les nappes donc manifestent que c'est là la table du repas eucharistique.
Oui, mais absolument.
L'éclat des cierges signifie que le Christ est lumière des nations. Vous ajoutez sous la table de l'autel aussi, on met des reliques.
Les reliques des saints et des martyrs. À l'origine, c'était des martyrs surtout, pour montrer en effet que le corps du Christ est un ensemble, et que à la fois dans le temps et dans l'espace.
Le baiser de l'autel, l'encensement, le signe de croix. Le signe de croix, on se dit qu'il y a là quelque chose, on va dire, de tout à fait naturel. C'est... Qu'est-ce que vous voudriez préciser sur ce sujet? Peut-être qu'on ne comprend pas. Vous dites qu'il faut faire attention à ne pas le faire trop vite.
Comment, voilà, de manière marginale.
Vous parlez de Sainte Bernadette, en l'occurrence.
Oui, Sainte Bernadette qui faisait toujours. Ça impressionnait tous les gens quand elle venait pour une apparition de la Vierge, de voir comment elle faisait, en disant son chapelet, elle le faisait, signe de croix, de manière posée et de manière réfléchie et en pleine, véritablement. Alors le signe de croix a l'avantage de manifester de manière toute simple les deux mystères essentiels de notre foi, et qui sont en effet le mystère des trois personnes divines, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, les trois personnes divines, et en même temps la croix, c'est-à-dire par laquelle nous nous sommes sauvés. C'est le mystère de la vie de Dieu en lui-même dans de toute éternité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et ensuite, l'incarnation rédemptrice, avec la rédemption par la croix. En se signant, on fait le signe de la croix, grâce à quoi nous sommes sauvés.
On va faire une première pause et puis on va vous retrouver, Monseigneur, pour cette entrée donc dans les mystères de la messe avec cet ouvrage pour cette première émission de 8 émissions au long de cette année, La messe au fil de ses rites, paru aux éditions CLD.
Thank you.
Emmanuel Pella.
La messe et ses mystères, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin pour ceux qui nous rejoindraient. Nous sommes avec Mgr Robert Legall, archevêque de Toulouse, ancien membre de la Congrégation pour le culte divin à Rome et ancien président de la Commission internationale pour la traduction liturgique francophone, auteur donc d'un ouvrage qu'on va parcourir au long de cette année, la messe au fil de ses rites. Avant qu'on avance, Mgr, quand on a écrit un ouvrage comme ça, et vous qui avez écrit de nombreux ouvrages sur la liturgie, je me suis dit en lisant votre livre que parfois ça devait vous faire un peu mal au cœur d'assister à certaines liturgies, non pas qu'elles soient mal célébrées, mais on sent que le moine ou le liturge que vous êtes a pris le temps en fait d'avoir l'intelligence de, et puis il y a eu cette chance aussi hein, de l'intelligence de la liturgie. Qu'est-ce que vous voudriez dire aux différents fidèles que nous sommes? Il faut prendre son temps dans la liturgie, il faut apprendre à être attentif, à déguster la liturgie.
En effet, la liturgie, c'est quelque chose que l'on vit de manière sereine et profonde. Il y a deux adjectifs que le Concile Vatican II énonce à propos de la liturgie, c'est la sobriété et la noblesse, ou la simplicité et la noblesse. Alors, un rite liturgique, une participation à la liturgie, ça suppose à la fois une simplicité faite de vérité et puis une noblesse par rapport au mystère de Dieu qu'on touche. Le titre des émissions, c'est la messe et ses mystères, comme vous dites. De fait, on entre dans un mystère. Mais je dois dire que quand je n'assiste pas beaucoup à des messes, parce que c'est moi qui les préside toujours dans mon diocèse, sauf exception dans d'autres diocèses ou dans d'autres célébrations plus importantes, comme j'étais. Et je suis allé au Gabon il y a la semaine dernière et j'étais étonné de voir plusieurs prêtres m'ont dit là-bas, vous êtes Mgr Legall, mais on connaît vos livres. Au Gabon, le nombre de gens qui ont été marqués par ce que je dis simplement par rapport à la messe, mais de fait, il suffit de suivre les rites qui sont proposés et non pas de manière bête et méchante, j'allais dire, mais de manière intelligente et simple et de manière à les vivre en paix. Et d'aller vivre en paix, ce que j'ai fait encore hier Notre-Dame du Rosaire à Aussonne, on entend célébrer les 500 ans de cette église. C'était une très belle célébration, très très beau, tranquille, posée.
Alors, je me suis dit qu'il y avait une chose aussi qui pouvait nous aider à rentrer dans l'importance de ce à quoi on assiste ou on participe, pardon, de rappeler le Saint des Saints qui se trouvait donc à Jérusalem, au temple de Jérusalem. Vous en faites mention quand vous parlez de l'encensement, je reviens un tout petit peu en arrière. Vous dites au jour solennel des expiations, le grand prêtre passe même dans le Saint des Saints, il passait je crois une fois par an, hein, oui, avec charbon ça. Et encens pour recouvrir d'un nuage de parfum l'arche d'alliance au-dessus de laquelle il y avait censé résider. Est-ce qu'il y a un parallèle en fait entre ce Saint des Saints et la liturgie à laquelle on assiste ou pas? Ou est-ce qu'il y a un lien? Quel est-il?
Et vous savez que dans les églises, ce qu'on appelle le sanctuaire, c'est là où a lieu où est l'autel. Et c'est vraiment l'équivalent de ce qu'était le Saint des Saints dans l'Ancien Testament, et même plus encore par certains côtés, parce que c'est au moment de l'Eucharistie quand nous célébrons le sacrifice du Christ. Et c'est le Christ lui-même est là en chair et en os, et dans tout son être, et offert à Dieu dans les espèces séparées de son corps et de son sang. Nous y reviendrons en temps voulu. Nous encensons l'autel au début de la messe pour marquer l'encens, c'est l'hommage d'une bonne odeur qui est due à Dieu d'abord et à tout ce qui touche Dieu d'une manière ou d'une autre. Donc c'est l'autel, c'est l'évangéliaire et c'est les fidèles eux-mêmes qui sont encensés au moment de l'offertoire, nous y reviendrons certainement aussi. Donc tout le Saint-Sacrement qui est encensé, c'est l'hommage à Dieu et ce qui est lié à Dieu. Donc ça a vraiment beaucoup de sens. Et le parfum, on le perçoit, on le sent et on voit l'encens.
Alors si on avance...
Qui monte.
Si on avance dans la célébration, après l'encensement, donc le signe de croix, on en a parlé. Et puis après, donc il y a la salutation du prêtre. Vous rappelez qu'il n'y a pas mille et une manières de saluer l'assemblée.
Le Seigneur soit avec vous.
Voilà, le Seigneur soit avec vous. En latin, ça donne...
Dominus obiscum, mais c'est quand même pas mal.
D'où cela vient-il? Pourquoi est-ce qu'il y a une formulation comme ça?
C'est une formule qui est très très ancienne, on trouve plusieurs fois dans l'Ancien Testament, mais surtout à l'Annonciation. Aujourd'hui, où nous commençons cette émission, nous sommes la fête du Rosaire. Notre-Dame du Rosaire. Eh bien, l'évangile d'aujourd'hui, j'ai célébré tout à l'heure dans ma chapelle avant de venir vous rejoindre ici, c'est l'évangile, c'est l'Annonciation. Qu'est-ce que dit l'ange Gabriel quand il voit je te salue Marie, je te salue Marie, le Seigneur est avec toi. C'est une constatation. Le Seigneur est avec toi. Dominus obiscum, c'est un souhait. C'est que le Seigneur soit avec toi. Le Seigneur soit avec vous. Donc, c'est un vœu que l'on fait pour que celui avec qui nous sommes en relation reçoive ce don de Dieu. Or, le prêtre, en raison de son sacerdoce, a la capacité de mettre en lien l'assemblée avec Dieu. Et la réponse que fait le prêtre, c'est une très belle interprétation qui est donnée par Théodore de Mopsuest, un des pères de l'Église autrefois, et avec votre esprit, c'est-à-dire avec la grâce que tu as reçue. Le Seigneur soit avec vous, avec la grâce que tu as reçue pour me mettre en communication avec Dieu.
Vous dites
beaucoup de sens.
Ce simple dialogue est révélateur de ce qu'est la liturgie. Dieu se donne par l'intermédiaire de ses ministres et à ce don répond la foi du peuple. Et après, vous nous expliquez qu'il y a une autre manière, une manière de saluer qui est propre en fait à l'évêque. Peut-être qu'on n'y porte pas forcément attention. Cette fois, c'est la paix soit avec vous.
Oui.
Pourquoi cette nuance ?
C'est une pratique, une tradition de l'Église depuis des siècles là encore, et c'est lié au fait que Jésus...
Cette fois, ce n'est pas l'ange qui parle, c'est le Christ lui-même.
C'est le Christ lui-même qui dit ça, et c'est pas n'importe quand, parce que c'est le soir de Pâques, quand il apparaît à ses disciples au Cénacle, toutes portes fermées, et deux fois il leur dit « la paix soit avec vous ». En fait, c'est le bonjour ou le bonsoir des pays sémites, parce que « shalom aleichem » encore maintenant dans les pays arabes ou dans les juifs, donc la formule est quasiment équivalente, « la paix soit avec vous ». Mais là, ça portait beaucoup de sens le soir de Pâques, parce que Jésus avait réconcilié le monde grâce à son sacrifice avec son Père et avec Dieu, et les disciples qui avaient été renégats ou s'étaient échappés, donc ils étaient peur, tétanisés, vraiment dans le Cénacle. Hein. Et Jésus, la paix soit avec vous deux fois. Il dit ça aux apôtres. Et les apôtres redisent ça, recevaient l'Esprit Saint, leur dit Jésus à ce moment-là. Et les apôtres et leurs successeurs, qui sont les évêques, reprennent cette formule de Jésus lui-même.
Seul Yahvé est capable de bénir son peuple dans la paix, vous dites, en reprenant donc un psaume. La fragilité humaine rend précaire toute paix, c'est pourquoi seul le prince de la paix, c'est-à-dire le Messie, peut l'instaurer durablement.
Le prince de la paix, c'était un des titres du Christ, c'est aussi prince de la vie, prince de la paix, et face au prince des ténèbres.
Si on avance, donc, suit dans la liturgie de la messe, donc l'acte pénitentiel, après le Kyrie et le Gloria, là aussi vous nous aidez à rentrer. À propos de l'acte pénitentiel, vous avez cette phrase, et puis après je vais vous laisser un petit peu développer. « Toute véritable confession de ses péchés est seconde par rapport à la confession de la miséricorde de Dieu. » À ce moment-là, on ne se confesse pas, je veux dire, c'est pas tout à fait la même chose. Et pourtant, expliquez-nous un peu la nuance entre cette grande réconciliation qu'on peut vivre soit fréquemment, soit de temps en temps dans sa vie, et puis cet acte pénitentiel que l'Assemblée et le prêtre font d'un seul cœur.
Ben, on a conscience de quand on vient vers Dieu, et plus on va vers Dieu, et plus profondément on accède à lui, plus on se rend compte qu'on est pécheur, qu'on est créature d'abord, et c'est même la réaction de Marie qui était immaculée par rapport à l'ange et aux annonces de l'ange, elle a une certaine bouleversée. Donc face au mystère de Dieu, on se fait petit, et tout acte liturgique commence par une reconnaissance de sa condition de créature et de pécheur, mais non pas pour s'y morfondre et pour s'y complaire de manière négative, mais au contraire pour faire appel au Sauveur. Et c'est d'ailleurs le sens du Kyrie qui suit, qui veut dire « Seigneur, prends pitié » en grec, Kyrie eleison. Et d'ailleurs les trois formules « Kyrie, Christe, Kyrie » qui peuvent faire penser à une confession trinitaire, c'est-à-dire professer la foi vis-à-vis de la Trinité, d'après la tradition plus ancienne, c'est surtout un appel au Christ des trois, un appel au Christ sauveur. Donc nous sommes pécheurs et nous nous reconnaissons comme tels, mais la confession... Confesser, c'est-à-dire on reconnaît ses péchés, mais on reconnaît surtout, c'est ça qui est premier, que nous sommes sauvés. Et c'est l'annonce faite à Joseph dans saint Matthieu au début de l'évangile, où il est dit clairement que tu ne crains pas de prendre Marie chez toi, et donc ce qu'elle a conçu, elle a conçu l'Esprit Saint, tu l'appelleras Jésus, Jésus parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. On les péchés, on les confesse, mais on confesse, c'est-à-dire on reconnaît qu'on a un sauveur et qui nous libère de nos péchés. Ça, c'est joyeux et c'est pour ça qu'ensuite on peut continuer sur le Gloria.
Alors à propos donc du je confesse à Dieu, du Confiteor, après vous avez une phrase où vous dites manquer la messe du dimanche est une faute grave d'omission. Alors il s'agit, enfin voilà, je trouvais que ça c'était intéressant de vous entendre là-dessus. Qu'est-ce que ça signifie? Et puis vous ajoutez quand même tout de suite après, de même que de ne pas prêter aide et assistance à une personne qui a vraiment besoin de notre attention. Vous mettez en parallèle ces deux choses, et puis qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de l'omission de la messe?
Ça peut apparaître un peu légaliste comme ça de prime abord. On parle de péché en effet, mais j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Et on oublie parfois des péchés d'omission, c'est-à-dire qu'on ne pas faire ce qu'on aurait dû faire. Alors il est vrai que c'est une faute grave. Les chrétiens, c'est pas une question de légalisme, c'est une question de vie. Et si on reconnaît le Christ comme celui qui inspire et qui donne sens à notre vie, à ce moment-là, on a le désir de le rencontrer, certes personnellement, dans une prière intime, continuelle, le matin, le soir, dans la journée, dans le métro, etc. Mais en même temps, on a besoin de le rencontrer, pas tout seul, mais en communauté, en assemblée, et c'est vital d'entendre la parole de Dieu dans les lectures de la messe, donc participer au sacrifice du Christ offert par le prêtre et communier au corps et au sang du Christ, c'est une nécessité vitale. On mange bien tous les jours.
Vital pourquoi? Qu'est-ce que
pour vivre de la communion vitale, parce que on a besoin de se nourrir comme on a besoin de se laver. Donc on mange tous les jours, même plusieurs fois par jour, et l'Église dit qu'on ne peut pas continuer ni grandir dans la vie chrétienne si au moins une fois par semaine on ne participe pas à la messe en communauté. Et ça, nous le rappelons toujours, parce que le pape Benoît XVI a écrit un document très très beau, le pape Jean-Paul II aussi, sur le dimanche. Le dimanche comme le lieu de réunion, d'assemblée, de joie, de joie par rapport au Christ qui est ressuscité, qui nous a délivré de la mort. Donc c'est un besoin vital, c'est pas du légalisme. Il y a des raisons par lesquelles on ne peut pas participer à l'Eucharistie dominicale, des raisons de fatigue, etc. Pour vérifier que ce n'est pas des alibis.
Et Monseigneur, à ce sujet, on peut se dire qu'il y a parfois comme une méprise, c'est-à-dire que quand on lit votre ouvrage, et puis peut-être parfois quand on assiste à la messe, on a l'impression que l'Église part du principe que tous ceux qui sont dans l'Assemblée ont une relation vivante avec le Christ, alors que, j'imagine que l'évêque que vous êtes le sait, beaucoup de gens vont participer à la liturgie dominicale, mais dans le fond, on se demande si Dieu existe vraiment, non pas... comment dire, pour eux, le Christ n'est pas forcément quelqu'un de vivant.
Évidemment, je ne perce pas les secrets des consciences quand je suis à la messe comme celle où il était hier, au premier rang desquels il y avait Madame le maire qui dit qu'elle n'est pas croyante, mais qui était extrêmement respectueuse, et c'était merveilleux. Donc on ne juge pas les consciences, mais là, les gens dans une messe qui sont là ont quand même la foi dans le Christ, sans ça ils ne viendraient pas, même si leurs motivations ne sont pas parfaites, ni extrêmement pures, ou aussi profondes qu'on pourrait le souhaiter. Mais ils sont quand même là. Et donc, la célébration elle-même peut à chaque fois leur donner justement de quoi nourrir leur foi, éclairer leur questionnement et les aider à vivre quotidiennement dans cette relation au Christ.
Est-ce que c'est un lieu où on peut rencontrer le Christ, la messe?
C'est le lieu par excellence où on rencontre le Christ dans sa parole.
Vous avez eu des témoignages de gens qui ont fait, entre guillemets, l'expérience de Dieu ou qui sont devenus croyants à la faveur d'une...
C'est exact. En particulier, les nombreux, vous savez, catéchumènes adultes qui demandent le baptême. Et chaque année, c'est plus de 100, entre 100 et 150.
Pour le diocèse.
Pour le diocèse, ici. Et m'écrivent des lettres très touchantes. Et beaucoup de gens ont été marqués en rentrant dans une église. même indépendamment d'une célébration, rentrant dans l'église, le sentiment d'une présence. Et aussi, lors de gens qui viennent, parce que c'est la coutume, à Noël, à Pâques, etc., et qui tout d'un coup, toc, sont touchés par quelque chose qui se passe, par une présence, une parole, quelqu'un qui leur parle, etc. Et ça change leur vie.
Alors, on avance donc le confiteor, le kyrie. Après, donc, il y a la bénédiction de l'eau et l'aspersion. Vous avez ces phrases.
Jours, oui.
À la messe dominicale, le rite de bénédiction de l'eau et de l'aspersion peut tenir lieu de préparation pénitentielle. Ah oui, pardon, ça peut être en lieu et place. Et alors, à propos de l'eau, qui a une place importante, et en particulier parfois donc au début de la célébration.
Un excursus en effet sur le symbolisme de l'eau.
Voilà, fait, vous dites matrice universelle d'après les plus anciennes conceptions du monde. Elle ne peut servir la vie si elle n'est pas fécondée par le souffle de Dieu. Expliquez-nous.
C'est la première page, même les premiers versets de toute la Bible, au début de la Genèse, où il est dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe, elle était en vrac, si on peut dire, et désordonnée. Et il y avait les eaux. Et l'esprit de Dieu, le souffle de Dieu, voletait sur la surface des eaux.
C'est voleté.
Volter, c'est meraréfet en hébreu, c'est littéralement planer, c'est traduit sur planer, je crois, en général. Mais volter, c'est vraiment c'est le symbole de l'Esprit Saint, la colombe, qu'on voit sur la tête du Christ quand il a son baptême au Jourdain. Et là, j'ai sur mon anneau, j'ai ici une colombe, symbole de l'Esprit Saint. J'ai donné encore la confirmation samedi soir. Et donc, c'est l'Esprit, comme c'est dans l'Esprit Saint que Marie a conçu. C'est le récit de l'Annonciation. Nous avons aujourd'hui le fait de Notre-Dame du Rosaire. Et donc, l'Esprit, dès les trois premiers versets ou quatre premiers versets de toute la Bible, de la Genèse, c'est l'Esprit de Dieu, qui est féminin en hébreu, qui est féminin, l'Esprit de volter et fécondé sur la surface des eaux.
Parce que l'eau est en lui-même un symbole de mort, du coup, en fait. Vie et mort, les deux.
C'est ça, le baptême. À la fois, on plonge dans les eaux, qui est un symbole de mort, de noyade, d'engloutissement, mais c'est symbole aussi de régénération, et il n'y a pas de vie sans eau. On voit bien, après l'été qu'on a eu, la chaleur, la Garonne qui est ici dans notre ville de Toulouse, et qui est sèche, et donc on voit bien qu'on a besoin d'eau. Quand l'eau revient, tout reverdit, tout reprend, et même quand c'était absolument sec, dans les déserts, en Afrique parfois, il y a des moments où tout était absolument sec, et tout reverdit avec des fleurs multicolores, merveilleuses. En Afrique du Sud, c'est extraordinaire.
Avant qu'on fasse une deuxième pause, j'aimerais que vous nous parliez d'un autre aspect de la liturgie, c'est que parfois il y a la bénédiction du sel. Pourquoi y a-t-il cette bénédiction qui suit la bénédiction de l'eau ?
Le sel est quelque chose qui donne de la saveur, qui donne du goût. Il faut pas en prendre trop, à commencer. À peu près à mesure qu'on avance en âge, faut pas en prendre trop. Mais le sel.
C'était déjà une prescription dans la loi juive, non ?
Absolument. Et le Christ, dans l'Évangile, a dit lui-même, le sel est une bonne chose. Mais si le sel s'affadit, à quoi servira-t-il ? Il n'a plus qu'à être piétiné. Donc le sel est symbole de la saveur, de ce qui donne du goût, ce qui a du goût. Et donc vous êtes le sel de la terre, le Seigneur nous l'a dit. Donc c'est l'eau qui revivifie, qui fait reverdir, le sel qui donne du goût, garder du goût. Si on est insipide, comment voulez-vous qu'on attire les gens ? Donc il faut savoir donner du sel à nos propos, comme dit aussi l'Évangile dans un autre passage, et avancer donc le fait que les gens désirent profiter du menu de l'Église.
Voilà, et l'eau, on va dire, salée, une fois étant aspergée sur l'assemblée, l'aspersion achevée, le prêtre revient à son siège et prononce la prière suivante: « Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer un jour au festin
de son
royaume. » On va faire une deuxième pause musicale avant de vous retrouver, Monseigneur, pour parler entre autres des habits liturgiques. Alors là, certains vont se dire que ça devient un peu une émission byzantine, mais ça en intéressera probablement d'autres. Les différents habits et les différentes couleurs. Je rappelle le titre de votre livre, La messe au fil de ses rites, paru aux éditions CLD.
Radio Présence à Mirande, 104.2. Vivante Église, Emmanuel Pella.
La messe et ses mystères, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin pour ceux qui nous rejoindraient en cours de route avec Monseigneur Le Gall, archevêque de Toulouse et ancien membre de la Congrégation pour le culte divin à Rome et auteur donc d'un ouvrage, La messe au fil de ses rites, pour la première de ces 8 émissions qu'on va faire avec vous, Monseigneur, en parcourant ce livre où vous nous prenez par la main pour rentrer dans ce qui se vit à la messe et dans sa profondeur.
Volontiers.
Avant qu'on parle du Gloria, je voulais que vous me parliez un petit peu du silence. Pour ce que j'ai lu de votre ouvrage, vous insistez sur l'importance de laisser de temps en temps la liturgie respirer. Faut-il des silences dans la liturgie ?
C'est indispensable. Et la rénovation de la liturgie par le Concile Vatican II a remis en place vraiment ces temps de silence. Autrefois, dans la célébration de la messe maintenant extraordinaire, il y a le canon de la messe, c'est-à-dire de la prière eucharistique, qui était célébrée en voix basse par le prêtre. Mais je célèbre moi-même de temps en temps cette messe selon la forme extraordinaire à Toulouse, de loin en loin, dans les communautés précisément. Mais il faut dire que ce silence est très très limité parce que pendant ce temps-là, on chante le Sanctus et il y a vraiment très peu de temps. Or, le silence, il y a des moments de silence qui sont importants. C'est notamment après les lectures de la messe, après les lectures, il y a une petite pause de silence pour laisser un peu reposer la parole avant qu'on prenne le chant. Nous le verrons entre les deux lectures, le psaume notamment. Et après l'homélie, il y a un temps de silence qui est en général assez respecté, mais pas trop long, mais pas trop
court. 5 minutes, c'est...
Ah non, pas 5 minutes, non, c'est une minute ou deux. Et de même, après la communion, et ne pas chanter continuellement, mais les laisser un peu de tout se reposer, accueillir la parole de Dieu, accueillir la présence de Dieu, de Christ en nous, dans son corps, et dans notre corps, et de tout ça, et des moments, donc laisser respirer, de fait, c'est vraiment essentiel.
J'aimerais donc vous vouliez nous parler un petit peu du Gloria avant qu'on parle de la collecte et qu'on aille dans votre excursus sur les vêtements liturgiques et leurs différentes couleurs. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire à propos du Gloria et de la collecte?
Le Gloria, vous savez, c'est le Gloire à Dieu au plus haut des cieux que l'on chante le dimanche, les jours de fête particulièrement. On ne chante pas dans les jours ordinaires.
Le chant des anges.
C'est le chant des anges, absolument. C'est à la naissance de Jésus, dans les anges dans nos campagnes, etc. Gloria in excelsis. Donc on est bien ce chant-là, mais c'est un chant des anges qui disent gloire à Dieu et paix aux hommes qu'il aime. Que c'est pas nous qui l'aimons, mais c'est Dieu qui nous aime d'abord, en premier lieu. Donc c'est gloire à Dieu, et ceci dès le début, après la prière pénitentielle qui ne fait que nous reconnaissons pécheurs, mais qui fait qu'on confesse aussi, c'est-à-dire on reconnaît que nous avons un sauveur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et le gloire à Dieu est trinitaire, c'est-à-dire commence par le Père, le Père Tout-Puissant, etc. Ensuite nous saluons le Christ agneau de Dieu, ce qui revient à la communion, agneau de Dieu, et le Fils du Père, et l'Esprit Saint, dans l'unité, dans l'Esprit Saint, c'était un schéma trinitaire. Comme on dit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au début de la messe, le gloire à Dieu, et donc, et le manifeste dans la joie et dans la lumière. C'est vraiment, même je rappelle que c'était en pleine nuit que le Christ est né, mais il y a eu une immense lumière qui a irradié les bergers.
Une nuée, dit l'Écriture.
Une nuée de d'anges. Alors, non, ça ne... Et au moment du Sanctus, c'est-à-dire de ça, on y reviendra, c'est un chant de Trisagion, comme on dit, c'est un chant qui manifeste la Trinité aussi, et la gloire de Dieu, mais dès le début de la messe, on a le Gloria.
S'ensuit donc une collecte, la première donc des 3 oraisons de la messe. Rapidement, un petit mot avant
collecte,
qu'on parle.
Vous avez fait
la collecte,
c'est intéressant, mais qui permet de dire là, quand on fait une collecte, c'est-à-dire qu'on rassemble. De même, le prêtre rassemble la prière de tout le monde. Donc il réunit, il collecte. Et c'est un très beau mot, le mot collecte, qui est la première prière, la première oraison, comme on dit, de la messe. Donc il rassemble un petit peu les prières de tous pour l'offrir à Dieu. Et c'est des prières qui sont magnifiques. Je me permets de citer celle de dimanche, le 6, où nous sommes actuellement le 6 octobre. Octobre,
le 7, le 6 c'était hier.
Nous sommes le 7 de Rosaire, mais hier, je vous dis, la prière de la messe hier, dans ton amour inépuisable, c'est adressé à Dieu, Dieu est un homme puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et leurs désirs. Au-delà, répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Au-delà, c'est toujours au-delà de ce qu'on peut demander. C'est d'une admirable collecte, par exemple, dans les temps précis.
Allez, les vêtements liturgiques. Vous détaillez les différents vêtements liturgiques et puis vous parlez des différentes couleurs. Alors à propos des vêtements liturgiques, on pourra peut-être pas parler de tous. J'aimerais que vous nous parliez de l'aube. Allez, l'aube, du latin alba, vêtement blanc.
Oui, c'est
le
blanc.
Vêtement blanc est surtout le signe de la résurrection. Vous faites un parallèle avec l'ange du Seigneur qui descend rouler la pierre à la résurrection et qui est habillé de blanc.
Habillé de blanc. Et les élus dans l'Apocalypse sont tous avec des vêtements blancs. Et donc ce qui symbolise en effet la fraîcheur, le côté immaculé. Et si Notre-Dame est immaculée, c'est pour donner naissance à son Fils, le Rédempteur. Mais le but, c'est que nous soyons tous immaculés. C'est dit, saint Paul le dit dans le début de sa lettre aux Éphésiens, pour que nous soyons saints et immaculés sous son regard dans l'amour. Non, c'est le vêtement. Au baptême, les gens reçoivent un vêtement blanc. L'autel est paré par un vêtement blanc, par une nappe blanche, et on donne la lumière aussi. Tout ça, c'est le symbole de la renaissance et de la vie en plénitude pour le Christ est venu nous apporter.
Oui.
Dans l'aube, et il y a eu les obsèques d'un prêtre dans le diocèse samedi dernier. Donc c'était un moment fort, et qui est mort d'un cancer à 65 ans. Mais le rite fait que sur le cercueil, on place son aube au début de la messe et on met l'étole dessus.
Et vous avez cette phrase, le blanc, c'est donc la couleur de la liturgie éternelle. Alors, vous détaillez l'étole, la chasuble, la chape, la dalmatique, comme je vois le temps qui passe. J'aimerais que vous nous parliez du pallium. Voilà, le pallium, tout le monde ne connaît pas forcément. Et le pallium, cela signifie quelque chose d'important. Déjà, pallium,
oui,
c'est en latin, ça signifie quoi?
Pallium, c'est un manteau. C'est un manteau. Quand on dit pallier quelque chose, on ne dit pas pallier à quelque chose, mais pallier quelque chose, c'est recouvrir quelque chose. Pour pallier un événement, pour pas pallier un manque, etc. Et donc, pallium, c'est un vêtement d'honneur dans l'Empire romain, et au-dessus de la toge, etc. Et le pallium est un collier de laine blanche qui est remis par le pape aux archevêques métropolitains.
Donc on vous voit parfois célébrer avec un pallium.
Et moi je l'ai toujours dans le diocèse ici, quand je célèbre le pallium, vous avez un collier blanc avec deux pointes noires de chaque côté, de devant et derrière, souvent entre la poitrine et sur le dos, et avec six croix qui représentent les six plaies du Christ, la tête, les deux mains, les deux pieds et le cœur, et trois clous, qui symbolise les trois clous du Christ, parce qu'il y avait un pour les deux pieds, un pour chacune des mains, et donc à la fois c'est le mystère de la croix, et le mystère de la brebis que le berger porte sur ses épaules, qui est allé chercher. C'est un très beau symbole, et très touchant. Moi, c'est un de mes grands souvenirs de ma vie, d'avoir reçu le pallium des mains de Benoît XVI à Rome, le jour de la Saint-Pierre, par le successeur de Pierre, donc le jour de la fête de Saint-Pierre.
Et on imagine ce que ça représente, parce que ce que ça symbolise est quand même immense.
Très fort.
Pour finir, les couleurs. Des couleurs liturgiques, il y en a un certain nombre. Détaillez-les-nous. Commençons par le blanc et le rouge.
Le blanc, c'est la couleur des jours de fête, comme c'est toujours Notre-Dame du Rosaire, puisque nous sommes aujourd'hui ensemble à cette occasion. Et le jour de fête, Pâques, Noël, etc., et des fêtes de saints, et cette couleur immaculée, couleur de la vie, de la lumière, etc. Le vert, c'est la couleur de la croissance, un petit peu, ça reverdit, ça
donc c'est la couleur liturgique du temps ordinaire.
Le rouge, symbole avec le sang, c'est les martyrs, et c'est de la couleur d'abord du Vendredi Saint, et du dimanche des rameaux.
Et de la Pentecôte.
Et de la Pentecôte. Et donc ça, c'est.
La croix glorieuse aussi, vous me rappelez ça.
Et le violet. Et c'est la couleur des temps de pénitence qui sont celui de l'Avent et celui de Carême. Et au milieu de chacune des temps de pénitence, le violet s'éclaircit en rose. Et parlons-en, puisque nous sommes à Toulouse, ici, le s'éclaircit en rose. C'est pas encore la fête, c'est pas encore le blanc, c'est plus le violet. Mais déjà, ça s'éclaircit. Donc, au milieu de ce temps, le dimanche Gaudete pendant le carême, le dimanche Létaré pendant le carême, et donc on fait une pause dans la pénitence et puis on regarde déjà vers cette joie qui vient.
Gaudete, réjouissez-vous, et Létaré.
C'est le même sens, de deux mots latins, et qui se trouve dans le pape revient. Gaudete et Létaré, c'est une des dernières exhortations du pape François, et c'est sur les deux mots. Gaudete et exultate, c'est tout à fait le même sens. Il y a aussi le bleu. Hier, je portais à Notre-Dame du Rosaire, à Aussonne où j'étais, une jasube bleue, mariale. Le bleu et le blanc, donc pour marquer un petit peu, et nous avons les embouts de nos micros ici, sont bleus aussi.
Je ne sais pas si c'est une signification liturgique, mais. Et pour finir, le noir, Monseigneur.
Le noir,
c'est fort rare, non ?
C'est rare maintenant de fait, mais c'est une couleur possible, c'est une couleur noble par certains côtés, le noir, et c'est pour les liturgies des défunts.
Monseigneur, pourquoi est-ce que lors des messes, puisque quand même la plupart des, on va dire des croyants vont seulement à la messe, pourquoi est-ce que les prêtres ne passent pas plus de temps à expliciter les mystères que l'on vit pour, vous n'avez pas le droit ou vous ne pourriez pas, à chaque liturgie, souligner un petit point et nous aider à comprendre ce à quoi on assiste ?
Évidemment, les prêtres, et ce qui est une très bonne chose, parlent surtout dans la continuité et de la parole de Dieu, et de la vie qui est la nôtre à droite à gauche, mais ça n'interdit pas qu'on puisse rappeler, en effet, à certains moments.
Vous le faites vous-même de temps en temps ou...
pas assez. Mais je m'arrive de le faire, mais plutôt en dehors de la messe, mais plutôt dans d'autres occasions. Mais
voilà,
c'est une bonne suggestion, je répercute.
La messe au fil de ses rites, c'est donc l'ouvrage qu'on va parcourir avec vous, Monseigneur, donc, au long de cette année pour cette première émission. Deuxième émission, ça sera donc le premier lundi du mois de novembre, puisque c'est le premier lundi de chaque mois. On se plongera dans la liturgie de la parole et vous nous prendrez comme ça par la main pour nous aider à rentrer dans la compréhension de ce grand mystère. Merci beaucoup, Monseigneur, et rendez-vous est donné donc le mois prochain. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.